Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 27e de notre saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Éric Parra.
Bonjour.
Éric Parra, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes un des adjoints à la mairie de Narbonne, Nouveau-Narbonne. C'est, si je puis dire, une première d'avoir, et je vous remercie d'autant plus d'avoir accepté cette invitation, puisque, en quelque sorte, vous étrennez ce qui, je l'espère, sera le début d'une série. Donc, vous êtes notre invité. On vous retrouvera dans une troisième partie pour parler de votre délégation, bien entendu, notamment le commerce, un grand morceau, et puis un petit peu, alors on évoquera le pont de Carcassonne, sujet brûlant s'il en est aujourd'hui, et puis enfin port fluvial, etc., etc. Nous avons un sommaire, Michel, basé comme de coutume sur ton blog, sur tes contre-regards de la semaine. Alors on commencera par les châteaux Qatar.
Aïe, c'est le château Qatar.
Oui, mais j'ai mis des guillemets, tu les as pas vus. Les châteaux dits Qatar et le classement UNESCO. Mm-hmm. Après quoi, nous continuerons par un billet que tu avais publié dans la semaine sur le mythe du président de la République tout-puissant. Ça concerne évidemment notre président actuel dans la cinquième, puisqu'on est encore dans la cinquième. Dans une deuxième partie, nous évoquerons un plan glisse, ou plus exactement, on l'évoquera dans la première. Oui. Un plan glisse, parce que là encore, après la filière vent, le plan glisse, c'est quelque chose qui t'a fait dresser les cheveux sur la tête. Et puis, nous terminerons par Monsieur Hamon. Alors, un candidat à Toulouse. Alors, on parlera pas de contenu parce que cette émission est rediffusée le dimanche. Mais par contre, de l'avenir et du comportement de Madame Delga.
Delga, c'est ça, oui. Voilà, lors de ce meeting.
Sur l'avenir que les choses peuvent impliquer puisqu'elle a pris une position. Rappelons donc que, à cause de la diffusion de cette émission le dimanche, on est tenu à une certaine discipline et je la précise dès le début. Alors, ces châteaux dits Qatar, tout le monde connaît cette étiquette Château Qatar, mais en fait, ce n'en sont pas, oui, des Châteaux Qatar.
Oui, on commence d'ailleurs à y venir petitement, je veux dire, sur un plan et sur un terrain politique. Hein. Je rappelle à nos auditeurs, je ne sais pas s'ils ont pris garde à cette info diffusée dans la presse locale, mais les 8 maires, les 8 maires qui, sur les communes desquelles se trouvent des châteaux et forteresses de l'Aude et de l'Ariège, ont célébré à Villeglis leur inscription par le ministre de la Culture sur la liste indicative française à soumettre au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Alors, oui, donc c'est pas fait le classement. Non.
Alors passons vite sur le hasard du calendrier, cette opportune décision ministérielle, prise à quelques jours seulement de la fin de ce quinquennat, ce qui va sans doute faire plaisir à Monsieur Viola, qui est candidat aux élections législatives, comme tout le monde le sait. Ne nous attardons pas trop non plus sur la quarantaine de dossiers qui ont déjà reçu ce genre de missive ministérielle et qui sont toujours en attente,
oui, de ce prestigieux label. Ça fait des dossiers très très hauts comme des gratte-ciels.
Voilà. Et n'insistons pas enfin sur les difficultés de tous ordres et la lenteur d'une procédure qui oblige l'État à sélectionner 2 sites seulement tous les ans pour les soumettre ensuite à l'UNESCO. Mais bon, retenons surtout Jean-Claude, c'est là-dessus que je voudrais insister, que ce ne sont plus d'improbables Château Qatar, comme tu l'indiquais tout à l'heure.
À part Montségur, est-ce qu'ils l'ont jamais été?
Qui seront proposés à l'UNESCO, mais des forteresses militaires, édifiées par le roi Philippe Auguste, rappelle un auditeur, sur le modèle du krach dont je vais pas épiloguer là-dessus, des chevaliers édifiés par les croisés de l'actuelle Syrie. Voilà pour la précision, en fait, architecturale, historique de ces châteaux, de ce qu'ils sont. Et de ce qui n'ont jamais été, à savoir des châteaux dits Qatar.
Oui, et sur le plan militaire, pour parler à des esprits plus contemporains, on peut faire un parallèle avec la ligne Maginot des années 30 et 40.
C'était exactement une
ligne de défense frontière entre la France et l'Espagne d'alors.
Exactement. Alors, c'est pas moi qui dit ça, même si je savais, enfin, je me permets de faire cette petite remarque que certains considèrent comme un peu pédantesque. Mais ce que je viens de dire là, est précisé dans le document de présentation de ce dossier de candidature, justement, qui sera soumis, hein, qui sera soumis à l'étude ministérielle et donc à l'UNESCO, en fait, un jour prochain, je ne sais quand. Hein. Ce qui, alors, et les scientifiques en question disent entre autres hein, que, ben oui, ce sont des forteresses et non pas des châteaux cathares, hein, que c'est un malentendu, en fait, voire un contresens historique total. Et moi, j'ajoute hein, que c'est un contresens historique total, certes, mais qui a été intentionnellement hein, provoqué par une communication touristique départementale qui, de ce point de vue, hein, a manifesté le peu de, comment dire, de considération qu'elle avait à l'égard de la vérité purement historique.
Oui, ils ont joué sur un amalgame pays Qatar, voilà, château Qatar, etc.
Je ne vais pas revenir là-dessus. Pays Qatar, est-ce que Narbonne a été un jour fait Qatar
non,
jamais
non,
dans
Narbonne
son histoire.
Narbonne fut violemment opposé au catharisme. Rappelons
ce
semble, point historique.
Il me semble. Bon, et puis que Narbonne, quelle liaison, quelle connotation pourrait-on faire entre, je ne sais rien, moi, la plage de Narbonne plage ou celle de Gruissant, en fait, et puis un pays Qatar, en fait. Où,
oui. Bref, Narbonne plage n'a jamais été Qatar que je sache.
On a quand même une communication institutionnelle en fait, départementale qui a provoqué en fait,
une ambiguïté,
et condensé effectivement cette relation fausse, hein, historiquement fausse, entre château en fait, et Qatar, ce qui fait que beaucoup de Narbonne d'ailleurs considéraient, jusqu'à ce qu'ils nous entendent, je l'espère en tout cas, Jean-Claude, ces châteaux en question comme des châteaux Qatar. Ils ne sont pas, donc je me suis réjoui en lisant cette information, qu'enfin, hein, si l'UNESCO déniait à poser son label, on aurait enfin...
Ouais, qu'on rende à César...
Des châteaux qui...
Ce qui alors, a appartenu comment, à César, en quelque
on
sorte.
On les appellera comme on voudra, moi, je ne sais rien, moi, des châteaux de...
Des châteaux... Ah ben, il faudra trouver...
Des citadelles du prestige...
On pourra faire un concours...
Que sais-je ?
On pourra faire un concours, comme pour le baptême de la région Occitanie, Michel.
Oui, mais en tout cas, bon, la conclusion... ces châteaux vont être bientôt rendus à leur véritable histoire, et ce qui démontre d'ailleurs une chose, c'est qu'à vouloir... tout labellisé Qatar, y compris ou les œufs, ben le qatarisme est la véritable histoire du catharisme dans cette affaire.
Oui, c'est autre chose. Alors, une belle ambiguïté également qui te plaît énormément, c'est le plan glisse de la communication du Grand Narbonne.
Oui, alors c'est moins le contenu qui m'a fait réagir, qu'encore une fois,
la
sémantique.
Tu étais fâché contre la filière vent, maintenant.
La sémantique et le vocabulaire. Parce que voilà, en fait, comment dirais-je, des termes d'une enflure telle, hein, plan glisse, filière glisse, plan glisse, pourquoi pas plan quinquennat, on se croirait effectivement revenu dans les années arrière, à l'époque du Gosplan en Union soviétique, hein, pour une niche touristique, enfin, qui est le sport de glisse, hein, qui n'est quand même pas la vache à lait en fait, touristique de notre département et de notre côte, notre littoral en particulier.
Enfin, qui est en train d'acquérir des lettres de noblesse quand même.
Je n'en disconviens pas.
Voir le dernier mondial du vent.
Je n'en disconviens pas. Le mondial du vent fut une réussite en termes de contenu, en fait, de réalisation, mais aussi en termes de communication. Mais de là, en fait, à utiliser quand même un vocabulaire qui rappelle encore une fois cette époque que je trouve vraiment surdimensionné. Tout ça pourquoi, entre parenthèses? Pour dire, comme je l'ai lu ce matin, en fait, en lisant la communication du Grand Narbonne, qu'on allait attribuer 700 000 euros sur 3 ans pour aménager des plans, en fait, des plans d'eau, en fait, et puis des stations d'accueil pour ces sportifs. Bon, 700 000 euros sur 3 ans. Est-ce que ça mérite, en fait, que l'on présente cette affaire-là, compte tenu de son, de son apport en termes de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée, enfin, au tourisme en général de notre littoral? Est-ce qu'on doit, utiliser des termes qui donneraient le sentiment, en fait, à ceux qui les reçoivent, qu'on a affaire effectivement à une activité tellement importante qu'il faille parler de filière en fait, économique, en fait, glisse, de plan glisse sur 3 ans, pour ne pas dire un quinquennat, etc., etc. Donc voilà, c'est une petite pointe d'ironie pour rappeler quand même à nos élus que, on peut très bien dire les choses simplement, sans pour autant dévaluer la portée de ces choses-là, notamment quand il s'agit du sport de glisse.
Voilà, grande question, mais ça, c'est tout le problème de la com. Est-ce que l'enflure verbale vaut la hauteur de l'investissement? C'est une question, vous avez tout le temps de la pause qu'on va marquer pour y réfléchir.